Appelez Vincent Parisot 3210. RTL Matin.
Oui, appelez pour nous dire si à la lumière de ce qui est en train de se passer au Japon aujourd'hui, vous avez peut-être encore plus peur de la menace nucléaire. On vous attend au 3210. On est avec Thierry Charles, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de la sûreté à l'IRSN. Alors l'IRSN, c'est l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. C'est un organisme d'État, précisons-le. Et vous êtes chargé, donc comme le nom de votre fonction l'indique, de la sûreté, de cette question évidemment fondamentale de la sûreté. Justement, quelle est votre lecture sur ce qui se passe aujourd'hui dans cette centrale de Fukushima ?
Bien, donc la situation est effectivement grave dans la mesure où on a des réacteurs qui n'ont pas été refroidis correctement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que à la suite du séisme, première information, c'est que les réacteurs ont bien tenu. Par contre, ce qui a mis en cause le réacteur, c'est le fait que la vague qui est arrivée due au tsunami a fait perdre les systèmes électriques du réacteur et également a fait perdre les moyens de le refroidir. Donc, dans ces conditions, dans un réacteur qui vient de s'arrêter et qu'il faut impérativement refroidir, ne pas avoir suffisamment d'eau froide pour le refroidir, ça pose problème. Et donc, au fil du temps, il y a eu une montée en pression dans le cœur du réacteur, avec un besoin pour protéger l'enceinte de confinement du réacteur, qui évite des rejets dans l'environnement, un besoin de faire une baisse de pression et donc un rejet dans le bâtiment d'un ensemble de vapeurs d'eau et d'hydrogène qui ont été produites par une dégradation du combustible. Mmh. Et ce qu'on a vu en fait dans les réacteurs 1 et 3, c'est ce rejet de mélange de vapeurs d'eau et d'hydrogène qui a explosé dans la partie haute qui était prévue finalement pour être entre guillemets soufflable, dans la mesure où l'essentiel pour un réacteur, c'est 1, de maintenir le refroidissement du cœur, de telle façon à évacuer la chaleur, et deuxièmement, de garantir l'étanchéité de l'enceinte de confinement pour maîtriser les rejets. Dans le cas présent, je veux dire quand même, c'est très important, c'est que les autorités et les exploitants ont très très bien réagi, il faut le dire, dans les circonstances du Japon actuellement.
Mais enfin, il y a aujourd'hui quand même un risque important, oui ou non ?
Bien sûr, puisque dans l'état actuel,
À écouter les messages des autorités japonaises, on aurait presque tendance à le sous-estimer.
Sous-estimer, je ne pense pas. Le point important, c'est qu'effectivement, l'enceinte de confinement est maintenue intègre et des dispositions sont prises au niveau japonais. D'ailleurs, ils le font très bien pour amener de l'eau. C'est fondamental. Et deuxièmement, faire baisser la pression quand il le faut, en ayant pris des dispositions dans l'environnement pour évacuer les gens.
Alors, on va écouter les auditeurs d'RTL, Thierry Charles, qui sont assez souvent inquiets. Et nombreux sont ceux qui habitent près des centrales nucléaires, avoir fait le 32-10 ce matin. Je pense à Alain, par exemple, qui nous appelle du Nord. Vous êtes à Calais, près de la centrale de Gravelines, c'est ça ? Bonjour Alain.
Bonjour Vincent, oui, j'habite à Calais, à 20 km de la centrale de Gravelines.
Mmh. Et est-ce que, évidemment, ce qui se passe aujourd'hui au Japon vous amène à vous interroger ?
Bien sûr, ça nous interpelle, et ça nous interpelle depuis la construction de la centrale de Gravelines, d'ailleurs, parce que les centrales nucléaires, c'est extrêmement dangereux. Mmh. Il y a d'autres moyens pour produire de l'énergie, notamment utiliser la nature plutôt que de la combattre. Le vent, la force des marées, le solaire, et même, puisque dans notre région, on avait le charbon, il y a aussi le charbon. Mmh.
Mais est-ce que vous pensez que la France aurait son indépendance énergétique telle qu'elle l'a aujourd'hui en partie, avec de l'énergie renouvelable ?
De toute façon, c'est l'énergie renouvelable, c'est l'avenir. Mmh. Sinon, c'est la catastrophe. On court à la catastrophe. Mmh. Vous avez la centrale nucléaire de Gravelines, qui est une vieille centrale. Une vieille centrale, elle devrait déjà être fermée, mais elle ne l'est pas. Il y a un risque pour la population. On a distribué des pastilles d'iode à la population.
On vous a distribué des pastilles d'iode ?
Pas à Calais, mais aux alentours de Gravelines. D'accord. Dans les environs proches, on a distribué des pastilles. Mais ça sert à quoi ? Rappelons-nous de Tchernobyl. On nous a menti pour Tchernobyl. On nous a menti, on nous a raconté des tas d'histoires avec le fameux nuage, n'est-ce pas ? Il n'est pas venu toucher les salades.
Oui, il s'est arrêté aux frontières de la France, ce fameux nuage.
Oui, c'est arrêté aux frontières de la France. Je voudrais juste vous dire...
Très vite, Alain, il y a beaucoup de monde.
Je voudrais juste vous dire, on est dans une zone, nous, dans un rayon de 60 km, vous avez la ville de Boulogne-sur-Mer, de Dunkerque, de Saint-Omer, de Calais, même la côte belge et même la côte anglaise.
Je vous remercie Alain, je me tourne vers Thierry Charles, la centrale de Gravelines... C'est vrai qu'elle est assez vieille.
Oh, pas tant que ça. Je veux dire, un point rassurant, au contraire. Le fait que les gens aient à leur disposition des pastilles d'iode, c'est rassurant plus que l'inverse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les autorités ont pris en compte le fait qu'un accident pouvait arriver. C'est toujours possible, même si on prend le maximum de précautions. D'abord EDF, bien sûr, et le système de sûreté qui va avec. Et le fait de donner de l'iode dans l'environnement, c'est pour tenir compte que si, malgré tous les systèmes de sécurité, il y avait un incident qui survienne, on puisse prendre des dispositions pour protéger les gens. Donc c'est quand même rassurant de ce point de vue-là.
Alors, une question aussi centrale évoquée ce matin par les auditeurs d'RTL, c'est celle de l'information, de la communication. Bonjour Pascal. Pascal ?
Oui.
Bonjour à Saint-Valery-en-Caux, hein, en Seine-Maritime.
C'est ça, oui. J'habite à 3 km de la centrale de Paluel.
Oui.
Et je suis à une quarantaine de kilomètres de celle de Penly. Nous, on nous cache des trucs. Il y a six mois, il y a eu un petit incendie à l'intérieur de la centrale, un bac à huile qui a pris feu.
Oui.
On a mis 2 jours à l'arrêter. Si j'avais pas un ami qui travaille pour une entreprise extérieure qui travaille à la centrale tous les jours,
vous ne l'auriez pas su.
Personne ne le sait. Forcément, parce qu'on a un maire qui travaille à l'EDF, on a les adjoints qui travaillent à l'EDF. Alors, ça ne doit pas intéresser personne qu'on dise qu'il y a des incidents à la centrale. La centrale, elle a plus de 30 ans. Quand on l'a construit, j'étais gamin, on avait dit aux gens de Saint-Valery, il y en a pour 30 ans, dans 30 ans, elle s'est fermée, on n'en entend plus parler. Elle a plus de 30 ans, elle est toujours en route.
Je vous remercie Pascal de votre appel, Thierry Charles. La durée de vie d'une centrale nucléaire comme celle-ci d'ailleurs, elle est supérieure à 30 ans ?
Oh, sur le principe, oui.
Parce que les auditeurs sont assez nombreux à nous dire la centrale à côté de laquelle j'habite, elle est vieille.
Oui, tout est relatif. Et il faut savoir que dans le nucléaire, les règles font que tous les 10 ans, on réexamine la sûreté d'une centrale. Ça commence comment ? C'est EDF qui fait une inspection de son installation pour voir quel est l'état exact des matériels. Est-ce qu'ils sont aptes à fonctionner ? Ensuite, il fait un examen complet de la sûreté en tenant compte de l'évolution des risques dans l'installation et hors de l'installation. Imaginons par exemple qu'il y a une modification d'un niveau de séisme, et ils vont en tenir compte. Et ensuite, ça permettra de renforcer l'installation s'il le faut.
Alors, Michel nous appelle d'Aulnay-sous-Bois. Bonjour Michel.
Bonjour Vincent.
Est-ce que vous avez peur du nucléaire ?
Franchement,
l'énergie nucléaire et des centrales nucléaires.
Pardon ?
Je dis, quand je dis peur du nucléaire, on parle des centrales, de l'énergie nucléaire.
Oui, tout à fait. Je ne suis pas tellement effrayé par les centrales nucléaires. Bon, j'habite Aulnay-sous-Bois, c'est loin d'une centrale nucléaire, 150 km environ. Et je pense que l'EDF et tous les organismes gouvernementaux qui gèrent l'industrie nucléaire sont compétents et font le nécessaire. Par contre, je remarque une chose, c'est qu'il va falloir, je pense, tirer des conclusions rapides sur le fonctionnement et la sécurité qui peuvent affecter nos centrales nucléaires, à savoir que les Japonais rencontrent deux problèmes, d'une part sur les enceintes de confinement et d'autre part sur le refroidissement des réacteurs nucléaires. Alors en France, avons-nous les normes nécessaires ? Oui, bien sûr, mais sont-elles assez draconiennes concernant les enceintes de confinement ? Ces enceintes de confinement sont-elles vérifiées et faut-il les renforcer, puisqu'on voit qu'elles arrivent à exploser malgré leur fabrication. Et les systèmes de refroidissement, même les systèmes de refroidissement de secours japonais, qui sont pourtant à la pointe de la technologie et de la sécurité, ne semblent pas fonctionner.
Alors, c'est une bonne question que vous posez, Michel. En gros, vous dites, est-ce qu'on va tirer les enseignements de ce qui est en train de se passer au Japon ? Ces enceintes de confinement, qui sont évidemment essentielles, on voit qu'elles peuvent ne pas résister à la pression. Le refroidissement, on voit aussi que c'est essentiel, on sait que c'est essentiel, on voit que ça peut poser des problèmes. Est-ce que les Français vont se poser des questions ?
Bien, donc, lorsqu'il survient un accident de par le monde, la première disposition qui est faite dans tous les pays du monde qui ont une station nucléaire, c'est de tirer l'expérience de l'événement qui est survenu. Donc on s'intéresse aux causes, aux conséquences, aux circonstances, pour voir ce qu'il y a à en tirer pour l'installation du pays dans lequel on est, et voir ce qu'il y a à faire pour l'améliorer s'il le faut. Ça, c'est une démarche classique. Mais je dirais également, dans les installations comme les réacteurs d'EDF, d'ores et déjà, il y a des procédures. S'il devait y avoir une perte de refroidissement, une perte de courant électrique extérieur, il y a des procédures d'ores et déjà. Mais il est certain, pour en être certain, qu'à la suite de l'accident de Japon, le retour d'expérience va en être tiré pour regarder ce qu'il y a à faire en France. C'est certain, ça je peux vous rassurer là-dessus. C'est systématique.
Dernière question, la France est peu exposée au séisme, c'est vrai, mais elle l'est quand même. Quelles sont les centrales qui sont, on va dire, les moins bien placés sur le territoire national. dans l'est de la France notamment?
Bah disons que c'est celles qui sont les plus proches notamment des massifs alpins finalement, ouais. Donc effectivement c'est la côte est finalement, mais le point important là-dessus c'est de voir comment on dimensionne une installation. En gros, première donnée c'est de connaître la contrainte sismique du lieu où on l'implante, de prendre une marge de sécurité et de concevoir l'installation pour tenir compte de ceci. C'est la règle générale où que soit l'installation.
Bah, c'est ce qu'ils ont dû faire au Japon.
C'est ce qui était fait au Japon, et d'ailleurs la conception de la centrale est une conception très particulière, et vous pouvez noter que ce n'est pas le séisme qui a impacté le plus fortement la centrale, c'est le tsunami.
Oui, comme quoi, on n'est pas obligé de penser, on ne peut pas penser à tout. Ils n'avaient pas pensé à tout, ils n'avaient pas imaginé cette hypothèse tsunami.
Ils avaient imaginé un tsunami parce qu'ils avaient placé la plateforme de la centrale en hauteur par rapport au niveau de la côte, mais ils ne l'ont pas placé assez haut.
Merci Thierry Charles, donc de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Merci à vous tous d'avoir fait le 32-10.